Bon, Guillaume, super émission hier. Ah, ouais, ouais. Le premier sur le coup, on peut dire.
Yes. Ah, Sybille Veil, présidente de Radio France.
Oh là là, fumée blanche. Voilà. Nous la félicitons chaleureusement, voilà.
Bonjour,
chère Sybille.
Bienvenue, Sybille.
Depuis le début.
Moi aussi, vraiment depuis. Sybille. Moi j'étais là avant, Sybille. Vraiment, on est très 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 heureux.
Je pouvais pas la blairer, moi.
Par Jupiter, premier sur l'info, first.
En ce moment, on est vraiment en phase avec la team Radio France. On a su capter les différents trends.
Il faut avouer qu'on a été bon sur le line dropping.
Lisez Printemps, mes amis. Pensons Sybille Veil.
Et hop là, la punchline de ouf, qu'est-ce qu'il y a?
Sur les réseaux, ça va buzzer. Ah ouais. On est comme ça, nous, on est digital natives.
Fais du repérage de blagues sur les réseaux. Pouloulou.
Ah, j'adore Niska.
Ah, Niska, mon gars, il tue le game, hein.
Oh, diable, le stagiaire.
Bon, on va se calmer, les millennials.
Hein,
hier, c'était pas très digital native, l'émission. C'était plutôt la chance aux chansons.
On n'aime pas toi de ce village. Pour nous, c'est le plus bio des langages.
Mais Visorek fit Adamo. D'accord. Le gars se fait son petit kiff à une heure de grande écoute.
Bah ouais, au KLM, quoi. Ah, tranquille.
C'était chiant, enfin. Viso, mon gars sûr.
Oh, loulou.
Oula, ouais. C'est pas gagné.
Qu'est-ce qu'il y a?
Je vous parle même pas de la Ola en début d'émission.
Oh, dis donc, il y avait une de ces ambiances.
Bah ouais, on se serait cru au Vélodrome.
Et en plus,
attends,
vous êtes fiers de vous.
Bah ouais.
Entre ça et le sujet 3 sur le carton rouge de Buffon, on est sur RMC, les enfants. C'est pas très Startup Nation.
Il va se calmer, le stagiaire, là. Sinon, Sybille, elle va te disrupter, mec.
Sybille est magique.
Bonjour la France Inter et bienvenue dans la start-up du service public. Et voici les trois sujets qui attendent le grand soir. Une petite brise d'insurrection vient caresser ce mois d'avril. Les universités bloquées, la ZAD évacuée, les cheminots en grève perlée.
Pensez printemps, mes amis.
Mark Zuckerberg s'excuse comme un gamin devant le Sénat américain alors que Facebook est un État dans l'État. Ils n'ont pas de pétrole, mais ils ont des données. Est-ce que les GAFA, ce serait le nouvel impérialisme?
Et maintenant, c'est qui le patron? J'ai pas entendu.
C'est qui le patron?
Les étudiants de Tolbiac en lutte ont leur mascotte, un chien baptisé Guevara. Il a même un compte parodique sur Twitter, piloté par un internaute extérieur, et qui parodie le blocage de l'université. Alors est-ce que Guevara et ce compte parodique servent la lutte ou la ridiculisent?
C'est moi qui bois. J'ai plus le droit de parler, alors je bois.
Et pour m'accompagner aujourd'hui, une équipe de toute beauté. La représentante suisse, Christine Gonzalez, bonjour.
Bonjour, interview exceptionnelle aujourd'hui, je vais interviewer Charles de Gaulle.
Ouais,
alors je ne vous cache pas que le duplex avec l'au-delà est compliqué aujourd'hui, il y a pas mal de fritures sur la ligne. Vous m'entendez mon général?
Je vous ai compris.
Ouais, ça marche.
Le représentant cubain, Guillaume Meurice. Ouais.
Bonjour à tous, moi je suis allé voir les Français ce matin pour préparer l'interview de Macron face à Plenel et Bourdin. Et j'ai un petit conseil pour lui.
Ne pas vouloir jouer les petits gros bras.
Voilà, pas jouer les petits gros bras, c'est important. Démerde-toi avec ça.
Et enfin, la représentante de toute la Pologne, Juliette Armand.
Bonjour Charline, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, un conte de fées avec un gros ogre.
Très bien. Et je me tourne vers celui qui va renverser la table du studio. Vous êtes docteur en droit et docteur en sociologie. Vous avez enseigné à l'université de Genève et à la Sorbonne notamment. Sartre et Beauvoir publient l'un de vos textes dans la revue Les Temps Modernes. Puis vous vous faites connaître dans le monde entier grâce à votre essai intitulé Une Suisse au-dessus de tout soupçon sur la spoliation des comptes bancaires de déportés au profit de l'Allemagne nazie. Vous avez été conseiller spécial auprès de l'ONU et du Conseil des droits de l'homme. Vous êtes actuellement vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Vous êtes l'un des essayistes de langue française les plus traduits au monde. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, attendez, on n'arrive pas à croire que vous êtes là. Vous êtes, dites-le nous, vous êtes. Votre
nom.
Oui, allez-y.
Jean Tiglet.
Oh la chance. C'est lui.
Et je suis tout ému par Charlie.
Jean.
Par Jupiter.
Nous aussi, Jean Ziegler, on est ravis que vous soyez avec nous. Donc ça y est, c'est le grand soir. Ça fait 3 ans et demi qu'on attendait ça.
Là,
et
on est sur
soir.
Une fin d'après-midi, mais ça va arriver.
Rockstar de l'altermondialisme, le chrétien marxiste le plus punk de Suisse. Et vous avez enfin, en France en tout cas, parce qu'il est sorti il y a 2 ans en Suisse, mais vous avez enfin votre film sur votre vie. Jean Ziegler, vous avez votre biopic. Donc bientôt, votre tête sur des t-shirts, sur des chaussettes, sur des mugs et des couettes.
C'est espéré, toi. Mais le film, il sort à Paris la semaine prochaine.
Et tout à fait.
Et qui est magnifique, c'est pas moi qui l'ai fait. Donc
Nicolas Vadimov.
C'est Nicolas Maginov qui a fait, magnifique.
L'un de vos anciens étudiants, en plus.
Et Emmanuel, j'ai taqué le producteur.
Voilà, qui est ici.
C'est eux qui ont fait le travail.
Eh oui. Jean Digler, L'optimisme de la volonté. Donc ce film qu'on pourra voir en salle le 18 avril en France. Alors Jean Digler, on y voit l'homme, comment il travaille, comment il vit. On vous voit en voyage à Cuba avec votre femme. Et on se dit, ce film relève quand même certaines contradictions de votre personnage.
Ouh là là.
Bah, je donne un exemple, mais c'est amusant. Vous êtes en voyage à Cuba, et vous êtes dans le taxi le soir, sur la banquette arrière avec votre femme, et vous dites, voyez, ça, il n'y a pas de publicité dans les rues, c'est magnifique, ouais. C'est très peu éclairé, et votre femme dit, bah oui, c'est la précarité, quoi. C'est...
Oui.
Vous dites, mais non, c'est magnifique, c'est ça le monde tel qu'il doit être, etc. Donc, vous acceptez que certaines de vos contradictions soulevées par votre femme apparaissent à l'écran. Comment vous les avez reçues en voyant le film ?
Bah, d'abord, je maintiens mon point de vue, parce que avoir pas de publicité sur les murs qui vous agressent partout, c'est très agréable.
Oui.
Premièrement, c'est très agréable. Et quand il y a peu de lumière dans une grande ville comme La Havane, qui est chaleureuse, qui est vivante, où les gens passent, dansent, la musique, et pas de néon qui vous éblouit à chaque coin de rue, bah, c'est très agréable aussi. Alors, ma femme est beaucoup plus réaliste que moi, évidemment.
Ah, vous reconnaissez quand même.
Bah, on est bien forcé, puisque les femmes sont plus intelligentes que les hommes par nature. C'est ça. Elle n'aime pas le film, d'ailleurs. Elle trouve qu'elle est comme un sac de pommes de terre. C'est toujours l'homme qui parle, le macho, etc. Mais pour moi, le film est vraiment un instrument de la lutte. Formidable. J'ai longtemps hésité à l'accepter. J'ai eu beaucoup de demandes depuis que je suis venu, que les gens me cinéastes m'accompagnent dans l'émission en Mongolie, etc. Enfin, partout dans le monde. Et finalement, j'ai accepté celui-là. Mais c'est dangereux d'accepter un film sur soi. Parce que vous savez, ces cinéastes sont tous totalement indépendants.
Oui.
Ils peuvent vous descendre en flamme et vous perdez totalement votre crédibilité. Et vous n'y pouvez rien, ni au montage, ni au moment du tournage. Vous êtes livré à ces mecs-là. Mais là, ça s'est bien passé.
Oui.
Parce que je connaissais Nicolas Vadimov, qui d'ailleurs est un des réalisateurs. Il y a une œuvre que je connais. J'ai aucune culture cinématographique, évidemment. Mais enfin, comme spectateur, j'ai vu ses films sur Gaza, etc., qui sont formidables.
Jeune réalisateur très en vogue en Suisse. Hein,
ouais, qui, Gonzalez, dans toute l'Europe. Enfin, un rayonnement formidable, d'abord ça. Et puis, c'est un ancien étudiant. Moi, il a commencé par la sociologie. Hélas, c'est un anarchiste, alors que moi, je suis un marxiste plus dogmatique, peut-être. Hein.
Oui, oui.
Et alors,
c'est pour ça qu'il y a une distance critique dans
le
film.
Oui, il y a une distance critique dans le film.
C'est pas une hagiographie.
Même trop. Hein.
Jean
Ma
Digler.
Vanité est souvent blessée.
Dans le film, vous expliquez très bien à quel point votre rencontre avec Che Guevara vous a offert la stratégie pour le combat de votre vie. Che Guevara, que vous avez conduit jusqu'à Chamonix, d'ailleurs, même. C'est quoi cette stratégie qui vous a donné?
C'est vrai, c'est un événement clé, rétrospectivement, dans ma vie, mais pour vous, c'est le néolithique, évidemment. C'est le début des années 60, vous imaginez. Vous n'étiez pas né, personne. Et Che Guevara conduit la première délégation cubaine, communiste de l'industrie, à la conférence du sucre au Palais des Nations, à Genève, et les Cubains, qui n'avaient ni ambassade ni consulat à cette époque-là, ont demandé à quelques jeunes communistes français et suisses, et donc moi, d'organiser un peu la logistique. Et j'ai été par hasard, pendant 12 jours, avec ma petite Maurice d'occasion, noire, mais qui fonctionnait encore, le chauffeur du Che. Et dimanche, par exemple, j'étais avec lui 12 jours, et souvent la moitié de la nuit. Dimanche, on allait à Chamonix parce qu'il parlait parfaitement le français.
Il skiait très très bien. Hein, c'est...
Non, il skiait pas, mais il skiait pas, mais il était totalement. Il est francophone.
Chamonix, pas Courchevel, hein, on est d'accord. Hein.
Non, Chamonix.
Il n'a pas amené Che Guevara à Courchevel.
Il était plus luge, il paraît.
Comment?
Il était plus luge que ski, il paraît.
Pas du tout. Il était curieux du Mont Blanc, il voulait voir.
Mais
Tona Célia était très très francophile, il voulait voir ça. Le dernier soir. Quand je savais qu'il partait par le train Zurich, Munich, Prague, parce que c'était la seule ligne pour La Havane, j'ai pris tout mon courage dans mes mains. J'ai dit, commandant, je veux aller avec vous. Il m'a appelé à la fenêtre, que l'on s'en connaît, une colline au-dessus de Genève, la fenêtre de l'hôtel, où la nuit, il y a dans la baie de Genève, c'est assez beau, pas aussi beau que Lausanne, aussi beau. Il y a toutes les lumières des banques, les réclames de tous ces truands du monde, les banques, les bijouteries, les assurances, etc. Il dit, tu vois, là, tu vois ça, camarade. Je dis, oui.
commandant, et il me disait, c'est là où tu es né, c'est le cerveau du monstre, c'est là que tu dois lutter. Et il s'est tourné froidement, m'a tourné le dos, et j'ai été détruit sur place, parce que je pensais qu'il me prenait pour un petit bourgeois inutile, ce qui était probablement le cas, très probablement le cas. Mais il m'a sauvé la vie.
Et oui, ah, vous seriez parti en Bolivie.
J'ai aucun talent militaire, j'étais objecteur de conscience, j'étais en prison au lieu de celle-ci.
Et voilà comment il m'a donné
la stratégie à appliquer. Il m'a dit l'intégration subversive, entrer dans les institutions, entrer dans les institutions, utiliser la force institutionnelle pour la réalisation de ses propres buts. Donc, je suis devenu professeur à l'université. Ensuite, je suis devenu député socialiste au Parlement. Ça, c'est du rien du tout. Mais enfin, c'était une tribune. Et maintenant, je suis aux Nations Unies depuis 15 ans dans différentes fonctions.
L'infiltration subversive, c'est ce qu'on essaie de faire dans les médias.
L'intégration subversive. Pour Karine, qui était souvent le révolutionnaire bolchevique, qui était fusillé par Staline en 1938, a dit « Le révolutionnaire est un opportuniste qui a des principes. » Et j'essaye... de vivre compliqué. Un tout petit peu selon ce principe du
tchèque. Jean Ziegler avec nous jusqu'à 18h. Ce film « L'optimisme de la volonté » de Nicolas Vadimov sort en salle en France le 18 avril. Et tout à l'heure avec Juliette Arnaud, nous allons parler de votre prochain livre qui sort au mois de mai qui s'appelle « Le capitalisme expliqué à ma petite fille » en espérant qu'elle en verra à la fin. C'est paru aux éditions du Seuil. Il y a Jean Ziegler avec
est là.
Nous
Il est là
Gauchiste
sur France Inter par Jupiter où nous sommes en compagnie de Jean Ziegler qui publie Le capitalisme expliqué à ma petite fille qui va en parler tout à l'heure Juliette Arnaud bien sûr il y a aussi le film sur Jeannot qui s'appelle L'optimisme de la volonté de Nicolas Vadimov qui sort en salle en France le 18 avril si vous ne connaissez pas encore Jean Ziegler vous allez à la fois découvrir dans ce film sa pensée et l'homme qu'il y a derrière et même que vous le verrez en pyjama et ça je vous donne un indice pour aller le voir.
En bicu.
Oui, mais il faut un peu chauffer les gens, vous voyez.
On expliquera tout à l'heure pourquoi. Restez avec nous, pourquoi Jean Ziegler en pyjama avec Juliette
Arnaud. Ça aurait pu être le titre d'ailleurs du documentaire. Jean Ziegler en pyjama, ça marche. Hein.
Ça aurait dû marcher, moi. Ouais. Oui. L'optimisme de la volonté, c'est une phrase.
C'est pas mal.
De Gramsci. Ben oui, c'est pas de moi, c'est de Gramsci.
Et la suite de la phrase, c'est le pessimisme de...
Non, le début, c'est Gramsci, qui était le fondateur du Parti communiste italien, avec Togliatti, deux deux étudiants en philosophie, hein, 22 et 24 ans, ont fondé le Parti communiste italien en 1922. Togliatti a pu s'enfuir tout de suite quand Mussolini est arrivé. Et Antonio Gramsci s'est fait prendre 18 ans de prison, incarcération. Mais il a pu sortir des petits bouts de papier qui sont devenus les fameux carnets de la prison. Mmh. Et là, il y a cette phrase « Contre le pessimisme de la raison, l'optimisme de la volonté » qui fait que je suis plein d'espoir malgré l'état du monde qui est affreux.
Et nous aussi, Jean. D'ailleurs, écoutez un petit peu l'état du monde.
En tartons, les pompeux, cornichons.
Le journal de presque 17h17.
Glop, 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 glop.
Et on commence avec les titres.
Oui, et la trêve des évacuations à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes.
Ouais, effet immédiat, le cours du Sarouel remonte à la bourse de Katmandou. L'indice Bolas reprend 12 points.
On parlera aussi du carton d'audience de l'interview d'Emmanuel Macron sur TF1 hier.
Effet immédiat, le cours de la vaseline remonte à la bourse de Pigalle. L'indice Bruno-Roger Petit reprend 12 points.
Et Alex n'est pas là.
Effet immédiat, le cours de la Brève s'effondre à la bourse de Bretagne. Moins 12 points sur l'indice Ivre-Virgule.
Glop, 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 glop.
Et on commence avec TF1 qui a fait hier un carton d'audience avec l'interview du président de la République.
Oui, il faut dire que l'accouplement d'un rapace et d'un blaireau, même sur National Geographic, on n'avait jamais vu ça.
Journalisme d'investigation toujours. Christophe Barbier analyse cette même interview qui a donc eu lieu dans l'Orne. Mais c'est quelle France ça ?
La France un peu triste. Orne, ça rime avec morne.
Bam ! Oh la vache, à ce rythme-là, Booba aura bientôt une carte de presse.
On enchaîne avec Notre-Dame-des-Landes. Les opérations de police sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Ce n'est pas le cas dans les facs occupées où les CRS interviennent.
Oui, c'est cruel hein, pour ces gens qui sont devenus CRS justement pour ne pas avoir à entrer dans les facs.
Oui, on note d'ailleurs un policier blessé par un accord du subjonctif parfait lancé par un étudiant de la Sorbonne, des images d'une rare violence.
Ah, c'est terrible. Le monde de la justice est également très remonté contre Macron et la lutte prend des tournures cruelles. On écoute une avocate du sud de la France qui a posté une vidéo sur Internet.
Avocat du sud, c'est extraordinaire. Ta réforme Macron, je lui ai dit, j'ai, quand je plaide cette soir, quelque chose qui crie.
Ouais. Ouais.
Mélange de Paul Lambert et du Pont-Montréal.
Ouais, c'est génial. On aime, on vous en parle.
Oui, bientôt dans la playlist, sans doute.
Et attendez, parce qu'il n'y a pas que dans le Sud, ça a également inspiré deux avocates du Nord sur Internet également.
Moi, je veux être jugée sur scène, devant mon tribunal.
Forme de lutte, hein.
Oui, je veux être jugée sur scène, le cœur ouvert tout en douleur.
Ouais, je crois qu'il est temps que Macron recule là, parce que la prochaine fois, c'est Charline qui s'y met.
Et là, ça va saigner.
Oui, au niveau des oreilles,
oui,
notamment.
C'est ça, on enchaîne.
On enchaîne. International, à présent, États-Unis, il avoue sur Facebook avoir tué sa mère et un ami.
Ah, est-ce qu'il a eu des likes ?
Assez peu, mais une demande d'amis quand même, Francis Holm.
C'est pas mal. Arabie Saoudite à présent, oui. La France va aider le pays à créer un orchestre national et un opéra.
Et on a hâte de voir la lapidation de Carmen par Don José.
Sport à présent, un homme a couru le marathon de Paris en espadrille catalane.
Il est vraiment prêt à tout Manuel Valls hein, pour qu'on parle de lui, c'est terrible.
Et puis une nouvelle vidéo choc de l'association L214 qui dénonce les conditions indignes dans un élevage de porcs.
Je l'ai vu et honnêtement c'est tellement insoutenable que ça pourrait convaincre Jean-Marie Le Pen de manger cachère.
Et Florian Philippot de se mettre au couscous.
Ah ben non, c'est déjà fait. Une étude britannique à présent publiée ce jeudi démontre que les personnes couchent tard ont un risque de mortalité plus élevé que les couches tôt et ont tendance à développer beaucoup plus de problèmes de santé.
Ce qui expliquerait la durée de vie des sénateurs.
Oui, c'est logique. Fossiles, toujours.
Deux squelettes de dinosaures ont été vendus plus de 2,8 millions d'euros aux enchères, un record.
Jamais on avait mis autant d'argent pour voir un Tados depuis Kate Moss.
On termine par une brève.
Oui, une brève. Bourgogne-Franche-Comté, en grève de la faim pour savoir s'il est le père de l'enfant qu'attend son ex.
Ah, voilà, je sais pas, mais si Rachida Dati nous écoute, mais bon, si c'est le cas, qu'elle appelle rapidement ce monsieur, va finir par faire une connerie.
Rends l'enfant, Rachida.
Jean Ziegler, avec nous, la rockstar internationale de l'altermondialisme. Et on va aborder ce premier sujet avec vous. La ZAD évacuée, les universités bloquées, les cheminots en grève perlée. C'est le printemps en France, ça vous rappelle rien ?
Papa, il faut que je t'explique. Je veux que tu comprennes.
Oui, mais alors deux secondes. Hein.
Deux secondes. Vas-y. Le capital, c'est foutu. La cinquième, c'est foutu. Le PC, c'est foutu. La société de consommation, c'est fini tout ça, c'est foutu. Les bagnoles, foutu. Faut que tu en prennes conscience, faut que tu te réveilles. Il faut que tu nous aides.
Mais
Qu'est-ce que c'est que ça?
L'enclos.
Qu'est-ce que c'est?
Un tiers d'essence, un tiers d'éther, un tiers d'oxygène.
Un tiers de... Et qu'est-ce que tu fais avec ça?
On l'allume et ça explose.
Un extrait de L'Aventure. C'est l'aventure. Alors, Jean Digler, en France, là, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, c'est la révolution?
Écoutez, regardant de Genève, enfin maintenant je suis à Paris ce soir, mais j'essaie de rentrer, puis je dois partir à New York dimanche.
Vu de Genève alors?
Vu de Genève, d'abord la France est une vivante, formidable démocratie. Par exemple, les chemins de fer en grève, les cheminots en grève, ben, c'est embêtant si on veut venir de Genève à Rome, mais c'est un embêtement très 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 mineur. C'est admirable, c'est vraiment, c'est génétique un peu en France, hein, je veux dire... c'est les héritiers de 1789. Si vous regardez bien ce qui se passe avec la grève, ils ne luttent pas pour une augmentation de salaire. Ils luttent contre l'abolition du statut pour ceux qui viennent après. Mm-hmm. C'est une grève de solidarité transgénérationnelle unique. Et qu'en France qu'il y a ça. Le gouvernement actuel ne met pas en question le statut maintenant de ceux qui sont là, mais de ceux qui viendront, qui seront embauchés après. Et ceux qui sont là, qui ont le statut, qui pourraient dire « Oh, ça ne me touche pas, qu'est-ce que ça me fait, je ne vais pas faire », ils disent « Non, nous n'admettons pas que ce statut, qui est le fruit de longs combats, de luttes de classe, de combats sociaux pour le réaliser, ce statut, ne soit pas accordé à ceux qui viennent après nous, qu'ils ne connaissent même pas, les Galévis ne connaissent pas ceux qui viennent après nous. Mais pour eux, une grève, c'est des sacrifices formidables pour les familles. Les grévistes ne sont pas payés, ils sont... La SNCF, on ne gagne pas, comme à Radio France, des salaires astronomiques.
Mirobolantes,
comme Charlène. C'est des salaires très modestes. Et les jours de grève ne sont pas payés. Et ils sont nombreux.
Et donc, il y a une cagnotte. Vous avez vu, ça, Jean, qui a un crowdfunding.
C'est minuscule,
hier, 674 000. C'est-à-dire qu'il y a des Français qui sont
mais vu Genève, la souffrance c'est pas... des familles. Là.
Vu de Genève, c'est pas beaucoup, c'est ça.
C'est
pour
ça. Non, mais après, il ne faut pas... minimiser ce problème, c'est pour les... je dis ça un peu... Ce qui est vrai pour les familles après calisation. Les mères, les enfants, etc., payent la grève. Il n'aura pas de vacances, etc., etc. Il y a le budget familial qui n'est déjà pas formidable pour la plupart des...
Mais une grève, c'est douloureux. On en sait quelque chose aussi ici, payé. À Radio France.
Oui, mais c'est payé par des sacrifices financiers du budget familial, etc. Ils acceptent, ils prennent en charge et ils disent on résistera jusqu'au bout. C'est ça qui est formidable. Ce n'est pas un tour de piste, etc.
Et là, vous êtes plutôt optimiste.
Par solidarité transgénérationnelle. Et c'est unique en France.
Est-ce que vous êtes plutôt optimiste, vous, qui avez un peu...
Moi, je pense.
Ouais.
La résistance, quand elle se réveille, les Cubains disent ne retourne plus jamais au sommeil. La verdad una vez despierta, no vuelve a dormir, se ramasse. C'est José Martí. Ah. Et je pense qu'une fois que cet esprit de résistance se concrétise dans des actes et dans un plan de résistance, une parole donnée à ceux qui seront prétérités par le nouveau statut, la privatisation, etc., ils vont tenir le coup. Et je pense qu'aucun gouvernement, finalement, surtout en France, peut résister à la volonté de résistance des citoyens libres.
Et voilà l'optimisme de la volonté. C'est d'ailleurs le titre du film sur Jean Digler par Nicolas Vadimov qui sort en salle le 18 avril. Et il y a votre compatriote à vos côtés, Jean Digler. Il y a Christine Gonzalez.
La France immobilisée, mouvements sociaux de partout, des grèves encore et toujours, universités bloquées, étudiants évacués, zadistes expulsés. Le pays est en crise. Et comme Emmanuel Macron n'écoute personne, j'ai pensé que pour parler à un président... Rien de tel qu'un autre président. La réforme, oui. La chienlit, non. J'ai le grand honneur de recevoir aujourd'hui le général de Gaulle.
Française, français.
Ah, il est impatient de parler avec nous. Hein.
Oui.
Je sais que vous suivez l'actualité de là où vous êtes. Que vous inspirent toutes ces évacuations, les grèves de cheminots, les étudiants qui s'indignent?
Une marée de désordre, d'abandon ou d'arrêt du travail. Notre pays est au bord de la paralysie.
Quelle doit être, à votre avis, la priorité d'Emmanuel Macron?
C'est d'assurer, en dépit de tout, la vie élémentaire du pays ainsi que l'ordre public.
Est-ce qu'il le fait?
Il le fait.
Mon cul, oui.
Oh là là, c'est le retour de Jackie Sardou. Jackie Sardou, je vous adore, vraiment, je vous adore. Hein. Et cette manière de vous incruster dans mes interviews, je trouve ça charmant, vraiment. Mais là, je suis avec le général de Gaulle. On est en train de vivre un moment important, vous comprenez ?
C'est un gros sac à vin, une armoire à gueuleton.
Bon, ça suffit, Jackie. Vous reviendrez une autre fois.
Oh.
Mon général, pardonnez-moi, vous disiez ?
Nous, Français, devons régler un problème essentiel que nous pose notre époque.
Alors, comment régler le problème ? Notre époque n'est pas très étrangère à la vôtre. Hein, au moment de mai 68, lorsque la France s'indignait, vous étiez un peu moins sûr de vous, là. Mon général. Mon général. C'est toujours la même chose avec De Gaulle. Hein. Quand ça se complique, il se barre. Comment on fait ? Est-ce que quelqu'un d'autre là-haut veut bien prendre le relais ?
Il faut bien.
Qui est-ce ?
Écoutez, il y en a qui m'appellent Georges, il y en a qui m'appellent Pompidou, je ne tiens aucun titre.
Georges Pompidou, c'est fou ça. À chaque fois que De Gaulle disparaît, c'est vous qui surgissez.
Le destin, pour moi, c'est un devoir.
Bon, alors, vous, la France en crise, vous connaissez, quel conseil donnez-vous à Emmanuel Macron ?
Résoudre le problème social et remettre en place la machine de l'ordre républicain.
Qu'est-ce qu'il manque à Macron, alors ?
L'honnêteté intellectuelle et la vigueur morale.
Mais encore ?
Il faut aussi, bien sûr, le sens des réalités.
Ah oui, vous l'aimez pas beaucoup, hein ?
Après tout, je suis un Français comme les autres.
Extraordinaire.
Je suis très impressionné, Jean Tiglère aussi, hein, de vous entendre. C'est très émouvant. Hein.
Mon cul, oui.
C'est extraordinaire.
On est en train de vivre un moment important, là. Je vous demande de partir. Maintenant, vous dégagez.
Eh ben, t'as raison. Parce qu'un laisser-aller pareil, au point de vue verbal, c'est une catastrophe pour l'érudition.
Je suis vraiment désolé, Georges Pompidou.
J'espère que la calomnie ne passera pas.
Non, mais c'est pas vrai. C'est pas étonnant qu'on parte en brioche. Hein.
On se calme.
Bien sûr, je dois dire cela maintenant.
Non, tout le monde se calme, s'il vous plaît.
Français.
Ah. Le général de Gaulle est de retour. N'empêche qu'il a une qualité, hein. Ah, franchement, il part, mais il finit toujours par revenir. Est-ce que le général est prêt à conclure cette interview ?
Il y est prêt.
Vous y êtes prêt ?
J'y suis prêt.
Alors, on vous laisse le mot de la fin.
Vive la République ! Vive la France !
Jean Tiglère, magnifique.
Magnifique, magnifique.
Ils étaient là avec nous.
Et il est du côté des cheminots, sans aucun doute. Du courage. De la solidarité, de l'action collective.
Et collective et intergénérationnelle, puisque les étudiants s'y sont mis aussi. Évidemment.
Formidable,
et
oui.
Voilà. Merci beaucoup Christine Gonzalez, avec les archives de l'INA. On y était, c'était incroyable. Merci beaucoup. Jean Tiglère est avec nous. Tout à l'heure, Juliette Arnaud parlera de son dernier ouvrage, Apparaître, le capitalisme expliqué à ma petite fille, en espérant qu'elle en verra à la fin. C'est paru au Seuil. On est ensemble jusqu'à 18h, avec aussi bien sûr Guillaume Meurice.
Oui, c'est vrai.
C'est une émission légèrement marxiste.
Je veux tes yeux, que tes beaux yeux seulement en photo, je veux les deux. Je veux les deux sans sentir ta peau. Connecté en ligne, mais pas à moi. J'attends ton signe, je crois qu'il y en a pas. J'ai vu que t'as vu, tu réponds pas. Alors j'attends, toujours j'attends, qu'enfin il sonne, ce son l'attend. Peut-être je me mens, peut-être j'en tremble. Faudrait pas que tu penses que je veux tes yeux, que tes beaux yeux. Un jour peut-être, on se verra, mais pas tout de suite, je préfère pas. Je préfère l'illusion de t'avoir, j'ai espoir, mais t'inventes pas trop d'histoires. Ok, je sais déjà que si tu m'oublies, ça m'apprendra que je veux tes yeux.
Thank you.
Angèle, je veux tes yeux sur France Inter, programmation musicale. Djoubaka, c'est Jean Digler qui est avec nous. Vous pourrez voir en salle le film sur Jean Digler qui s'appelle L'optimisme de la volonté par Nicolas Vadimov et qu'on vous conseille chaleureusement. Et Jean Digler, il y a, on peut dire, un de vos disciples cette salle, Guillaume Meurice.
Oui, moi je vais vous parler de la tournée média de Macron. Là, il est sur toutes les chaînes en ce moment, on dirait Alex Vizorek. Et vraiment, je trouve que les interviews changent avec le style de l'intervieweur. On a commencé par Delahousse, hein, souvenez-vous, très doux mais en même temps ferme. Ce qu'on demande à une brosse à reluire, hein, finalement, doux mais ferme en même temps. Il y a eu Pernaud, voilà, plus rural, plus proche de la ménagère de plus de 150 ans. Mais par exemple, si c'était Charline, ce ne serait pas la même interview non plus. Enfin, voilà, par exemple, vous mettriez voilà, les réponses dans les questions. Mmh. Par exemple, hein, qu'est-ce que vous pensez de ce pignouf de Castaner ? Voilà, par exemple, ça serait un autre style. Christine, vous feriez peut-être plus Thatcher directement. Carrément, on ne verra pas la différence faire, oui. Avec Macron. Mais là, il s'apprête à répondre à Plenel et Bourdin. Et moi, ce que j'aime bien chez Bourdin, c'est les questions des auditeurs. Ça, j'adore. Alors, souvent, c'est des taxis, mais j'aime bien. Et là, j'ai appris qu'il n'y en aurait pas pour cette interview, donc j'étais déçu. Puis je me suis dit, c'est pas grave, je vais le faire moi-même. Donc, je suis allé dans la rue et j'ai demandé aux gens ce que eux demanderaient à Macron. Si Macron, il est en face de vous, qu'est-ce que vous
lui... Il va se faire foutre.
Ah oui, quand même, à ce point-là.
Ouais, laisse tomber.
Wow. Alors, si vous l'aviez en face, vous lui diriez quoi?
Je dirais bonjour, au revoir.
Ouais, un petit peu de politesse, quand même, d'accord. Pas crever, mais bonjour, au revoir, c'est la moindre des choses. On n'est pas loin d'un merci, bisous, merci. Alors là, ça n'engage pas le dialogue. Là, on est plus sur de la menace. Alors, attention aussi à l'effet inverse, hein, l'effet qu'on appelle l'effet fanzouze. Qu'est-ce qu'il ferait devant Macron?
Je prends une photo et je la mets sur profil Facebook, c'est tout.
C'est tout, aucune question.
Aucune question. Parce que c'est un honneur pour moi d'être avec Macron.
C'est vrai, vous l'aimez bien, là?
Oui, c'est un président, quand même.
Non, mais c'est un bon président.
Ah, ça, je peux pas vous dire. Je prendrai une belle photo avec lui, je le mets sur un cadre, c'est tout.
Ouais, alors là, on a affaire vraiment le fanzouz de base. Hein. On est au niveau Jean-Pierre Elkabbach. Hein, ouais. Donc ça, on a déjà. Moi, ce que je cherchais, c'est un style, quoi. Et des questions, il manque des questions. Des questions de fond. Alors, qu'est-ce qu'elle lui dirait, cette dame?
Qu'est-ce que tu manges?
Ah, c'est ça, ouais?
Ouais, c'est quoi ton... Pour avoir la ligne comme ça, qu'est-ce que tu manges? Tu manges quand? Parce qu'avec tout ce qui... Il est partout, hein? Donc comment il mange? Voilà.
Ça, c'est ce qui vous intéresserait chez Macron, de savoir ce qu'il mange.
Ouais.
Bah voilà, une première question intéressante. Hein. Alors, on sait déjà sa passion pour les cordons bleus, puisque certains journalistes d'investigation de notre beau pays ont déjà fait une enquête. Mais c'est vrai que le reste, on sait pas. Faudrait mettre le service reportage de Cuisine TV, à mon avis, sur le coup. Bien joué, madame. Alors, on continue toujours avec des questions pertinentes et à monsieur.
Je voudrais savoir s'il honore encore son épouse, s'il la couvre encore, s'il y a encore des rapports.
Ah, c'est ça qui vous intéresserait chez lui?
Oui.
Qu'est-ce que ça vous apporterait, vous, en tant que citoyen, de savoir ça?
En tant que citoyen, c'est important pour l'équilibre d'un président de faire ses besoins sexuels régulièrement. Sinon, il peut prendre des mauvaises mesures parce qu'il aura une insatisfaction, une frustration sexuelle.
Ah, vous pensez que ça peut influer sur la politique?
Ah oui, je suis médecin. Ça influe beaucoup.
Ah bah ça, c'est un vrai questionnement. Voilà, ça, j'espère que Jean-Jacques, il va la garder, celle-là, pour dimanche. Cher monsieur Macron, est-ce que vous couvrez encore Brigitte? Voilà, ça, c'est essentiel. Non, mais ça, on sait que le président américain, il attrape les femmes par la chatte, par exemple. Alors, c'est un peu familier, mais au moins, on sait comment ça se passe, ces rencontres avec Merkel. Géopolitiquement, il se passe quelque chose, c'est important pour nous. Et puisqu'on parle géopolitique, tiens, l'intervention en Syrie, là, monsieur s'y intéresse.
C'est vrai que quand on voit toutes ces images, on est tous horrifiés. Alors, après, ce qu'il faut suivre, monsieur Trump, c'est Bush puissance 25. Non, mais voyez, voilà. Autrement,
monsieur Trump, c'est Bush puissance 25.
Oui, non, mais honnêtement.
Oui, alors honnêtement, ça aussi, je propose de demander à Macron, selon vous, est-ce que Trump est Bush puissance 25? Là, j'ai hâte d'avoir la answer à the question. je me moque pas, j'ai un accent pourri aussi. En cours d'anglais, on m'appelait Jean-Pierre Raffarin. puisqu'on parle d'accent, j'ai rencontré des gens qui viennent de Carpentras. Qu'est-ce qu'elle demanderait à Emmanuel Macron, la dame?
Bien, écoute, les migrants, à combien ça revient, les migrants?
C'est ça que vous lui poseriez comme question?
Exactement, la question que je poserai. Combien coûtent les migrants à la France?
Il y a des études qui montrent que l'immigration, ça rapporte justement au pays.
Actuellement?
Ouais.
Non, elle coûte plus qu'elle rapporte. Vous rigolez, vous?
Il y a des études qui montrent l'inverse.
Non. C'est des études de Mediapart.
Ah non, c'est des études d'économistes. D'ailleurs, il faudra prévenir Gérard Collomb. Il n'est pas au courant s'il nous écoute. Gérard! C'est le monsieur de la radio! C'est l'heure des chiffres et des lettres. Il doit être encore en train de pioncer dans sa soupe. Bon, on mettra un petit mot dans CRS Magazine. Hein, c'est le seul journal qu'il arrive à lire. Alors, terminons par une dernière question. Une dernière question pour Emmanuel Macron.
Qu'est-ce que ça fait de pouvoir entuber les retraités tout en leur disant merci? Quelle sensation ça procure?
Est-ce que ça lui procure lui-même du plaisir
de pouvoir dire merci tout en entubant les retraités?
Bah ça c'est une bonne question, entubage des retraités et du reste de la population. On espère que Bourdin et Plenel poseront également la question, qu'ils ne se feront pas entuber eux-mêmes, hein, parce que c'est vrai que depuis un certain temps, les interviews de Macron, ça ressemble plus à du Marc Dorcel qu'à Albert Londres.
Merci Guillaume Meurice, du Marc Dorcel avec des hommes blancs de plus de 65 ans, essentiellement.
C'est vrai.
Voilà. Alors, sujet 2 avec Jean Tigler qui est avec nous. Voici cette autre question. Le patron de Facebook a donc présenté ses excuses devant le Sénat américain. On aurait dit un gamin s'excusant d'avoir cassé un carreau alors qu'il est en train juste de dérégler un peu la planète. La Silicon Valley est plus puissante qu'un État, voire plusieurs États. Est-ce le nouvel impérialisme? En langage des guignols de l'info, on dirait qui sont les nouveaux Monsieur Sylvestre?
When I'm with you, babe, I go out of my head. I just can't get enough. I just can't get enough. All the things you do to me, everything you said. I just can't get enough.
Les guignols avec Monsieur Sylvestre qui incarne dans le latex le capitalisme mondial. Alors, vous dites dans le film qui vous est consacré, Jean Digler, l'optimisme de la volonté qui sort en salle en France, à un moment vous dites, bon, pour moi l'impérialisme ça a toujours été voilà, les États-Unis, l'Occident et j'ai pas vu venir le Qatar, certains Émirats. C'est une phrase que vous prononcez à un moment où vous êtes à l'ONU dans votre joli costume de camouflage, hein, parce qu'on sait qu'en dessous vous êtes en treillis. Mais est-ce que aujourd'hui on n'est pas aussi un cran plus loin? Ce film est sorti il y a 2 ans en Suisse et que les GAFA, Google, Amazon, Facebook sont aussi un nouvel impérialisme ou une face de celui-là, quoi.
Écoutez, il y a un chiffre de la Banque mondiale, hein, de l'annuaire de la Banque mondiale de Oxford University Press l'année dernière. Les 500 plus grandes, plus puissantes sociétés transcontinentales privées, tous secteurs confondus, ont contrôlé l'année dernière, les 500 plus grandes sociétés transcontinentales privées, 52,8% du produit mondial brut, c'est-à-dire de toutes les richesses produites en une année sur la planète. Ces oligarchies du capital financier, très minces oligarchies du capital financier globalisé, ont un pouvoir comme jamais un roi, un empereur ou un pape n'a eu sur cette planète. Elles échappent à toute forme de contrôle étatique, parlementaire, social, interétatique, complètement. Elles savent faire beaucoup de choses. Le capitalisme monopolistique est une créativité incroyable. Il y a un nouveau médicament dans la chimie baloise tous les 3 mois, un nouvel instrument financier à Wall Street tous les 15 jours. Il y a une créativité, une inventivité certainement extraordinaire. Mais ces maîtres du monde, ces sociétés transcontinentales, Google, Amazon...
les GAFA, Facebook.
C'est ça, Apple. Ont une seule stratégie, qui est la maximalisation du profit dans le temps le plus court et à n'importe quel prix humain. Elles exercent, je le répète, une dictature sur cette planète, sur les États les plus puissants de la planète. Monsieur Macron, Merkel, Trump, quand il se réveille le matin, pour Trump c'est vers midi, paraît-il, selon ce que j'ai lu, la première chose qu'ils font, c'est aller voir les dates de la bourse de la veille. Pour savoir quel est l'espace millimétrique qu'il leur reste encore comme dirigeant démocratiquement élu d'État puissant pour mettre en œuvre telle ou telle politique. Donc cette dictature mondiale érigée par les oligarchies du capital financier globalisé produit l'ordre cannibale du monde. Richesse concentrée extraordinaire et tous les 5 secondes sur cette planète, un enfant au-dessous de 10 ans meurt de faim ou de ses victimes. Tous les 5 ans, tous les 5 secondes, un enfant meurt de faim. Et le même World Food Report de la FAO, donc de l'organisation spécialisée des Nations Unies, qui donne des chiffres des victimes contestés par personne, dit que l'humanité, aujourd'hui, telle qu'elle est, l'agriculture mondiale telle qu'elle est, aujourd'hui, pourrait nourrir 12 milliards d'êtres humains. Nous sommes 7,3, donc presque le double de l'humanité actuelle pourrait être nourrie normalement. Si tout le monde avait accès à la nourriture, à l'eau, aux soins, etc., etc. Or, cet ordre cannibale du monde, il faut le liquider et nous pouvons le faire. Nous
mais comment alors, Jean? Parce que vous dites, il change un peu de forme. Avant, c'était des États, maintenant, c'est des entreprises.
Maintenant, c'est
etc.
des oligarchies du capital financier.
Ouais. Alors, la forme de lutte, elle a changé? Comment on fait?
Non, les données fondamentales sont les mêmes. Quand vous avez l'oppresseur et les exploiteurs qui ont monopolisé un pouvoir incroyable, et un dernier chiffre, je ne vais pas vous ennuyer avec les chiffres, selon Oxfam, les 85, l'année dernière, les 85 milliardaires les plus riches de la Terre ont eu autant d'avoirs patrimoniaux, de fortune, mm-hmm. l'année dernière, que 4,7 milliards d'êtres humains. Donc cette inégalité qui est payée par la misère, par la destruction de l'État social, par la déréliction des Nations Unies, le programme alimentaire mondial qui devait nourrir les gens en Somalie, en Afrique, au Soudan du Sud, mm-hmm, oui. au Yémen aujourd'hui, où on meurt par dizaines de milliers de faim, d'eau polluée, non plus ont perdu la moitié de leur budget, le programme alimentaire mondial, parce que les États riches ne payent plus ce qu'ils devraient payer, parce qu'ils ont fait des réformes fiscales imposées par les oligarchies.
Et c'est votre
financiers.
Fameuse phrase, alors, un enfant qui meurt de faim est un enfant qui meurt assassiné.
Il n'y a plus aucune, la faim est faite de main d'homme, il n'y a plus aucune aujourd'hui. La planète déborde de richesse, il n'y a plus aucune fatalité, c'était différent dans les siècles passés. Un enfant qui meurt de faim, maintenant où nous parlons, et il meurt maintenant, mm-hmm. est assassiné.
Jean Digler, on va poursuivre sur cette thématique avec la sortie prochaine de votre dernier ouvrage qui s'appelle « Le capitalisme expliqué à ma petite fille », entre parenthèses, en espérant qu'elle en verra la fin. C'est paru au Seuil et Juliette Arnaud a eu la chance de le lire en primeur.
Eh oui. Alors, on va commencer par une devinette. Quel conte de fées commence par « Il était une fois une petite fille de village la plus éveillée qu'on eût su voir ». C'est le Petit Chaperon Rouge, Charles Perrault,
oui,
1697. Et depuis, c'est ainsi qu'on s'adresse aux enfants pour commencer une histoire par ces quelques mots. Il était une fois, et alors à ce moment-là, l'auditeur, enfant, puis le lecteur est averti. Et vu que le livre de Jean Ziegler, Le capitalisme expliqué à ma petite fille, s'adresse d'abord aux jeunes pousses, dont je ne fais pas partie, il pourrait débuter ainsi, et ça ferait Il était une fois, le capitalisme. Et comme c'est une histoire, il faut commencer au commencement, à l'origine, et donc comme avec le Petit Chaperon Rouge, on sait donc qu'elle est une fille et qu'elle vient d'un village, et bien le capitalisme vient du mot, je l'apprends dans votre livre, caput, qui est un mot latin qui signifie la tête, ainsi l'occiput, l'arrière de la tête. Ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'il y a un autre caput, il y a le caput allemand, hein, un mot germanique mais bien connu des Français, même ceux qui ne parlent pas vraiment allemand, ceux qui savent seulement dire « ach, la guerre, grosse malheur ». Bref, caput avec un K signifie cassé et par extension mort. Alors on peut se dire, est-ce que ça serait pas une promesse cachée mais bel et bien contenue dans le mot capitalisme ? Rien n'est moins sûr. Parce que ce qu'il y a de moins rigolo, c'est que après avoir lu votre livre, je sais que le capitalisme va bien, hein, nicht kaputt, il va même de mieux en mieux, il vous embrasse. Et c'est une des choses qu'on apprend par exemple qu'en entre 1992 et 2002, le produit mondial brut a doublé, le volume du commerce mondial a triplé, sauf que dans le même temps, la misère dans nombre du pays du Sud a formidablement augmenté. Ce qui fait dire à l'auteur, vous-même Jean Ziegler, je pense qu'en Occident, personne n'ose vraiment penser le monde tel qu'il est. En France, par exemple, hein, là en France, on fait partie de l'Occident, quand même, merde, on était le pays de Rousseau, on était le pays du mec qui avait écrit en 1755 « Les fruits sont à tous et la terre est à personne ». Ensuite, bon bah il y a eu 1789, là on était bien, tout va bien, bon bah c'est un résumé merdique, mais j'ai pas la journée. Et on arrive en avril 1793, et là il y a un type au pouvoir, il s'adresse aux bourgeois, il veut essayer d'éviter la guerre civile, injouable selon lui à un moment où la guerre est aux frontières avec les forces réunies des autres royautés. Bref, on est à fond de réal politique. Merkel va te coucher et ce monsieur déclare « L'égalité des biens est une chimère ». Et c'est qui le monsieur ? Eh ben, j'ai le regret de vous annoncer qu'Hugo avait tort. C'était pas la faute à Voltaire et c'était pas la faute à Rousseau, c'était Robespierre. Robespierre, l'incorruptible. Bah merde alors ! Surtout qu'à ce jour, eh ben, on n'a toujours pas fait demi-tour là-dessus. Hein. Le respect de la propriété privée devient même une base absolue de notre démocratie. Le plus grand penseur du capitalisme, le plus connu, celui qui a le plus de vues, hein, en langage jeune, c'est Marx. Encore un boche. Et c'est aussi son pourfendeur attitré au capitalisme. Et il a raconté sa naissance. Et il dit, il a ces mots-là, vous le dites, Jean Ziegler, il dit « Le capitalisme est venu au monde, citation, suant le sang et la boue par tous les pores. Le sang et la boue. » Alors oui, enfant ou pas, cette lecture, ce livre, c'est pour ceux qui sont pas trop heureux de sang et de boue. Et je pense l'avertissement nécessaire, je ne suis plus une enfant, j'étais glacée. Mais Les enfants n'ont pas peur d'avoir peur, confère la fin du petit chaperon rouge, et je la cite, et en disant ces mots, ce grand méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et le mangea. Les enfants, ils se remettent de ça. Mieux, ils intègrent la vraie morale de l'histoire, qui est celle de Perrault, et qui dit à la fin, je dis loup, mais tous les loups ne sont pas de la même sorte, il en est d'humeur à Corte, mais hélas, qui ne sait que ces loups doucereux, de tous les loups, sont les plus dangereux. Avec ce livre, qu'intégreront les jeunes gens? Eh bien, que l'utopie se réalise à petit pas, qu'elle est en marche, et que si Jean Tickler ne sait pas quand l'insurrection viendra, quand arrivera le moment de briser les bras des oligarques, comment ça arrivera, il croit fermement que ce jour-là arrivera. Et un jour, je l'attends moi aussi, le jour où le petit chaperon rouge mangera le loup. Merci.
C'est merveilleux.
Jean Tickler.
C'est merveilleux.
Et oui, merci beaucoup Juliette Arnaud pour cette lecture donc du prochain ouvrage de Jean Tickler qui va apparaître au Seuil et qui s'intitule « Le capitalisme expliqué à ma petite fille en espérant qu'elle en verra la fin comme Juliette ».
Moi aussi, ouais, de mon vivant, s'il
vous
plaît.
Et on va être solidaires avec vous, nous aussi.
C'est une métaphore, n'allez pas buter des loups.
C'est magnifique.
Oui.
Parce que Nicolas Hulot, s'il nous écoute, il fait « bah moi je bute des loups déjà ».
Une petite question, rapidement, Jean Tickler. Le choix des mots est très très important. Vous êtes extrêmement pédagogue. On le voit dans le film sur vous, l'optimisme de la volonté. Vous avez plein de citations adéquates, oui, à chaque explication. Oui. C'est aussi décisif, le choix des mots et...
Ah, moi, je pense qu'il a des citations qui aident à résumer, à densifier. On peut parler, par exemple, de Kant, Immanuel Kant, puisque vous aimez les Allemands. Immanuel Kant, fin du XVIIIe siècle, a dit « L'inhumanité infligée à un autre détruit l'humanité en moi ». C'est la définition de la conscience d'identité qui nous habite, qui est recouverte évidemment par la folie néolibérale qui veut nous faire croire qu'on n'existe plus comme sujet de l'histoire, c'est plus l'homme, c'est des forces du marché qui obéiraient à des lois naturelles et l'homme n'a qu'à se soumettre à Bourdieu, qui malheureusement est mort, qui est un ami magnifique, a dit c'est le nouvel obscurantisme, il est comme le sida. Le néolibéralisme pratiqué par M. Macron et, hélas, majeure partie des chefs d'État, est comme le sida, parce que d'abord, il détruit les forces immunitaires de la victime et puis il tue.
Ce sont les punchlines aussi de Jean Tickler, avec derrière vous un troubadour de la lutte. Oh là là. Je vous le présente, Frédéric Fromet.
Bonsoir. Donc, alors, hier, c'était le dernier concert de Michel Sardou, ainsi que l'interview d'Emmanuel Macron en direct de Berduy. Quand on fait la Java le jeudi à Berduy, après la drague au Cato, on est comme à la messe, pas besoin de bondieuserie avec Jean-Pierre Pernaut. C'est peut-être pas la plus jolie, la Java de Berduy, mais Tolbiac était pris. Quand on fait la Java le jeudi à Berduy, en causant carabistouille, que fait le téléspectateur? Il réagit en se grattant la tête. C'est peut-être pas la plus jolie, la Java de Berduy, mais la ZAD c'était cuit. Quand on fait la Java au JT de 13h en premier de cordée, cet idiot Carperno, son credo, son bonheur, c'est le dernier sabotier. Les belles images d'un élevage de poules, un reportage sur des joueurs de boules, la recette de la torgoule. Quand on fait la Java le jeudi à Berduy en direct sur TF1, demain on verra Macron dans Secret Story, Joséphine ange gardien. Dans The Voice, ce sera parfait, l'endroit rêvé pour gueuler, c'est notre projet. Ou alors, quand j'étais petit Macron, je repassais mes leçons avec Bri-Bri. Aujourd'hui, manque de bol, je me retrouve à l'école avec Pernaut. La vie c'est pas marrant, c'est trop désespérant, il y a des gens. Et quand on fait la Java le jeudi à Berduy pour parler aux retraités, mieux qu'une école primaire, pourquoi n'avoir pas choisi un EHPAD au Touquet? avec des vieux rendus hystériques à l'idée de conduire moins vite leurs fauteuils électriques. C'est peut-être pas la plus jolie, la Java de Perduis. C'était ça ou la Syrie.
Merci Frédéric. Bravo Frédéric Romet.
Quel zadiste celui-là.
Et merci beaucoup à Jean Ziegler d'avoir passé ce moment avec nous. On était très heureux de pouvoir vous accueillir.
Merci à vous.
Cœur avec les doigts.
Oui, prêt. Merci Jean. Vous pouvez relire l'œuvre intégrale de Jean Ziegler, évidemment, qu'on vous conseille, et le dernier à paraître, Le capitalisme expliqué à ma petite fille. Et pour tous ceux qui aiment Jean Ziegler et ceux qui veulent le découvrir, Jean Ziegler, L'optimisme de la volonté, le film de Nicolas Vadimov est enfin disponible en France, dans les salles, le 18 avril. Merci à tous, merci à l'équipe, bien sûr, à Marion Lelay, Sarah Masson, Nathalie Romero, à la préparation, avec Mathias Volant, notre stagiaire, Anne-Sophie Ladonne à la réalisation, Antoine Asdé et Frédéric Fromet, tiens, cette semaine pour les petites blagues, et Élise Christophe à la technique. Voici le mot de la fin.
Vive la République! Vive la France !